au regard du philosophe. Encore une fois, le scientifique, il est certain de ce qu'il atteint. Il sait qu'il atteint des lois, il sait qu'il atteint des théories. Et souvent, très souvent aussi, c'est ça qui n'est pas toujours simple, très souvent le scientifique, vous voyez, a une intention de philosophe. C'est ça qui n'est pas facile, c'est que des grands scientifiques, au fond, ils ont l'impression, ils voudraient connaître, je dirais, le secret des choses, entre guillemets. Et ils souffrent très souvent de constater que leur, je dirais, que leur instrument scientifique, enfin, quand ils sont vraiment lucides, ne leur permet pas vraiment d'expliquer vraiment. Vous voyez, autrement dit, la science ne se transforme pas en sagesse. Un grand scientifique, je dirais, s'il est lucide, découvre que sa connaissance est très grande et très noble, même le mathématicien, elle ne l'aide peut-être pas à être plus homme. Vous voyez, elle développe son intelligence. Mais elle ne l'aide pas concrètement à vivre sa vie avec un plus grand réalisme. C'est même souvent une expérience qui est douloureuse parce que quelqu'un, vous voyez, on voit ça dans le domaine, par exemple dans le domaine informatique. Alors vous me direz, c'est à la limite de la science. Mais quelqu'un qui surdéveloppe ses capacités de réflexion dans le domaine informatique, dans le domaine des théories informatiques, il aura un mal, il aura spontanément, ce sera contre nature, mais enfin bon, il aura du mal à revenir à la réalité. Alors, il faudrait étudier pourquoi est-ce que l'informatique permet, je dirais, un surdéveloppement, vous voyez, de la pensée scientifique qui n'est pas liée directement à la réalité. Mais c'est important de voir que le grand scientifique, je dirais, admire l'objet qu'il étudie, par exemple le biologiste ou l'astrophysicien, mais qu'il sent bien que sa découverte scientifique n'explique pas cette admiration. Oui, c'est un autre niveau. Je dirais, le scientifique est doublé d'un artiste, ou doublé de quelqu'un qui est capable, qui a un sens de la beauté des choses. Mais il y a une espèce d'hétérogénéité, vous voyez, ça m'avait beaucoup frappé. Au mois de septembre, il y avait une conférence, un festival, où le thème du débat était « La beauté sauvera-t-elle le monde ?» Et on avait invité un grand astrophysicien français. Et le sujet, c'était « La beauté sauvera-t-elle le monde ?» Donc il a commencé à parler de son émerveillement devant la nature, devant les astres. Au fond, le caractère prodigieux qu'avaient les astres. Et puis au bout de 3 minutes, il a commencé à nous donner des chiffres. 20 minutes, bon normalement il avait 15 minutes pour parler. Au bout de 25 minutes, il était toujours en train de nous donner des chiffres. Bon ben, c'est clair que l'admiration auprès des auditeurs, elle avait disparu dès les 5 premiers chiffres, quoi. Mais une fois qu'on a compris qu'on n'est que le milliardième du milliardième de bout de cosmos, au moins, ça, vous voyez, c'est très bien, ça peut nous émouvoir. Mais alors, quand vous avez des... Et c'était très, enfin, très beau. C'était très amusant de voir qu'il y avait une espèce de... Pas de dichotomie, mais que tous ces chiffres, ça n'expliquait pas son admiration, c'était autre chose. Tout le monde est capable d'admirer devant les astres, et puis, je dirais, les 3/4 des gens étaient capables de s'embêter au bout de 5 minutes devant la liste des chiffres. Alors, effectivement, le scientifique a peut-être la capacité de découvrir qu'au fond, la réalité est incroyablement plus simple que tous ces chiffres qu'il additionne, ça c'est possible, et incroyablement plus belle, c'est ça que je crois. Mais vous voyez, il y a une espèce de par exemple, le biologiste, est souvent très admiratif devant la vie. Et il voit bien que ce qu'il en saisit au niveau de sa biologie, c'est, il devient humble à ce moment-là, parce qu'il voit que c'est rien du tout à côté de ce que c'est que la vie. C'est infiniment plus riche. Alors je dirais, le philosophe va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce de double aspect. Vous voyez, admirer quelque chose, c'est le jugement direct. Vous voyez, le biologiste, quand il admire la vie, c'est pas simplement au bout de son microscope. Vous voyez, c'est que ça rejoint une expérience humaine plus profonde. C'est qu'effectivement, il voit qu'au bout de son microscope, il a la même chose qu'en face d'une personne humaine. Il y a la vie dans les deux cas. C'est ça, vous voyez, c'est... Je crois que l'admiration d'un scientifique et l'humilité d'un scientifique, c'est premièrement en tant qu'homme qu'il est humble et pas en tant que scientifique. En tant que scientifique, il est exaspéré parce qu'il veut comprendre plus. Enfin, il est exaspéré. Il n'est pas exaspéré, mais vous voyez, je dirais ça serait intéressant de voir que la connaissance scientifique n'a pas de repos. Oui, parce qu'une théorie scientifique, elle est toujours à repréciser, elle est toujours à... Tant qu'on n'a pas saisi la loi qui explique tout, il y a toujours à progresser. Le philosophe recherche toujours, mais le philosophe, quand il atteint, vous voyez, quand il regarde la réalité avec un regard de l'intelligence plus clair, il se repose, c'est ça la contemplation philosophique. Vous voyez, c'est de la même manière, je dirais, que dans l'amitié, quand on découvre la richesse de celui qu'on aime, vous voyez, avec une espèce d'évidence plus grande, il y a une admiration de l'ami. Vous voyez, on ne se demande pas immédiatement, mais qu'est-ce que je vais pouvoir connaître de plus? Il y a un repos dans cette connaissance affective. Eh bien, il y a ça chez le philosophe, qui fait qu'il recherche le philosophe, mais le fait de regarder la réalité et de contempler la réalité, ça le repose parce que c'est la réalité qui achève son regard. Vous voyez? Ce qui fait l'unité de la connaissance philosophique, c'est la réalité. Ce qui fait l'unité, on va le voir, ce qui fait l'unité de la connaissance scientifique, c'est pas la réalité, c'est la théorie. Et la théorie, elle peut toujours être précisée, alors que la réalité, elle est toujours là. Elle n'a pas à être précisée, la réalité. Elle a à être mieux comprise. Mais elle n'a pas, je n'ai pas à la parfaire, vous voyez, enfin, dans mon étude philosophique. Alors, je dirais je crois que le philosophe dirait que le scientifique peut dire que le scientifique atteint ce qu'on appelle une structure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le scientifique, on le voit très nettement dans la loi, vous voyez, dans ce que c'est qu'une loi. Une loi, c'est une relation entre deux éléments. C'est une relation. La loi, ce n'est pas une réalité, une loi. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la chute des pommes. La pomme, c'est une réalité. La loi, ce n'est pas une réalité. Vous n'avez jamais rencontré une loi. Et vous ne pouvez pas dire la loi, elle est présente dans la réalité, non. La pomme, elle ne contient pas la loi. La loi, c'est le rapport entre le point A et le point B, et puis la dénivellation. Enfin, oui, c'est un rapport, une loi. Et l'ensemble des lois, vous voyez, qu'on unifie. Alors, vous voyez, c'est ça le c'est intéressant aussi, c'est que la. Qui explique aussi pourquoi est-ce que la science, d'une certaine manière, va toujours plus loin. C'est que vous avez deux objets et vous établissez une loi entre deux phénomènes, plus qu'entre deux objets, entre deux phénomènes. Vous établissez un rapport. Bon. Et puis, vous étudiez deux autres phénomènes qui ne sont pas les mêmes et vous établissez une autre loi. Alors la loi 1 et la loi 2. Et puis ensuite, vous allez voir quel est le lien entre la loi 1 et la loi 2. Alors vous allez construire une troisième loi qui est la loi 3. Qui régit, vous voyez, les rapports entre. Et au fond, vous voyez, votre phénomène initial, qui est déjà, on l'a vu, une abstraction de la réalité, vous voyez, une abstraction de la réalité, elle se transforme en loi. Et votre loi, elle devient un phénomène. Et comme ça, vous allez pas à l'infini, parce que vous avez précisément le propre de la théorie, ça sera de regrouper un certain nombre de lois entre elles et de les unifier dans une loi. Vous voyez, dans un rapport très général. C'est-à-dire que quand on aura, je ne sais pas trop quoi, une loi 4, une loi 5 et tout, on va essayer de réunir tout ça, toutes ces lois, pour qu'on en ait une seule. Au fond, on va partir d'un certain nombre de phénomènes qui sont irréductibles les uns aux autres. Vous voyez, il faudrait prendre un exemple. Vous voyez, dans le domaine de psychologie. On va étudier le comportement de quelqu'un qui perd la mémoire, le comportement de quelqu'un, ou de quelqu'un qui n'a plus de mémoire, le comportement de quelqu'un qui n'a plus d'imagination, le comportement de quelqu'un qui n'a plus de sensation. Alors déjà, on va établir des lois, on va voir que quelqu'un, si on lui enlève la moitié du cerveau gauche, il y a tout un certain nombre de choses qu'il ne peut plus faire. Si c'est la moitié du cerveau droit, il y a tout un certain nombre de choses qu'il ne peut plus faire. Puis on va affiner. Et ce qu'on essaiera de construire ensuite, c'est quelque chose qui explique l'ensemble. On va essayer d'expliquer cet ensemble de phénomènes par une théorie générale. On va dire, par exemple, la partie droite du cerveau, c'est celle qui sert à la mémoire, et la partie gauche, enfin, je sais pas, qui sert à l'imagination. Donc après, on va s'apercevoir que ce n'est pas si simple que ça. C'est qu'en fait, il y a aussi des éléments de la mémoire dans la partie gauche et des éléments de l'imagination dans la partie droite. Vous voyez, on va toujours essayer, mais on va essayer d'établir une loi. On va dire, mais. Vous voyez, le rapport entre. C'est très intéressant pour ça d'étudier la localisation des choses dans le cerveau. On va dire à droite, à gauche, puis ensuite on va dégager des zones.
Puis on va s'apercevoir que même dans ces zones, il y a des sous-zones, et qu'au fond, chaque partie du cerveau, il y a presque tous les éléments qu'il y a dans les autres. Mais donc à chaque fois, votre théorie, elle va changer, vous allez d'abord avoir une théorie locale, qui fait la partie droite, la partie gauche. Puis ensuite, vous allez avoir une théorie locale plus précise. Puis ensuite, vous allez avoir des théories qui vont dire, au fond, le cerveau, tout ce qui se passe d'important, ça s'explique par ce qui se passe à la périphérie du cerveau. Puis il y en a d'autres qui vont dire, non, c'est ce qui se passe au centre. Et au fond, vous allez essayer de voir que ceux qui expliquent que tout se passe au centre et ceux qui expliquent que tout se passe à la périphérie, ils ont raison tous les deux. Parce qu'ils ont des preuves, ils ont des expériences. Bon. Alors il va falloir essayer de trouver une théorie qui explique à la fois le centre et la périphérie. Alors on va avoir des phénomènes, vous voyez, d'ondes ou d'hormones, alors on va servir de la biologie. Mais oui, c'est important de comprendre que chaque fois que vous avez élaboré quelque chose, ça sert à élaborer quelque chose de plus. Et qu'au fond, au terme, ça se transforme presque en formule mathématique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a que les scientifiques qui comprennent.
Non, mais c'est important de voir que
normalement, c'est très rapidement, vous comprenez. On vous explique, alors on vous utilise des termes, mais derrière les termes, vous ne savez pas ce qu'il faut mettre. On vous parle je ne sais pas trop quoi, d'une onde, d'une onde. Alors vous imaginez un petit chose comme ça. Alors qu'une onde, c'est beaucoup plus une formule, c'est beaucoup plus explicite par une formule mathématique. Alors que le philosophe, normalement, ce qu'il explique, c'est présent dans l'expérience. Alors, ça demande effectivement une certaine purification de l'intelligence pour le saisir, mais c'est présent, c'est là. Le fait que quelqu'un ait une âme et qu'il ait un esprit, et je dirais l'existence de Dieu, elle est présente dans mon expérience. Oui. Alors que la formule de la théorie de la relativité,
vous pourrez toujours, vous aurez du mal à la saisir dans votre expérience. Alors le problème, c'est que, bon, on le verra, c'est que la philosophie, ça sert à rien. Dans le sens que c'est pas efficace. Alors que la science, c'est très efficace, parce que c'est sûr, ça vous sert à rien de savoir que l'homme a une âme quand il s'agit d'opérer quelqu'un. Vous voyez, enfin, là, il vaut mieux savoir comment ça fonctionne à l'intérieur. Je ne dis pas pour le soigner, hein, mais pour l'opérer. Donc je crois que, vous voyez, cette loi générale, je crois que c'est ce qu'on appellera une structure. Et vous voyez, la structure, ça montre bien, c'est quelque chose de global qui essaye d'englober la réalité et d'une certaine manière qui essaye de la remplacer dans l'intelligence. Vous voyez, la structure remplace la réalité dans l'intelligence. Quand vous arrivez à penser une structure, vous voyez, on voit très, très bien ça en chimie, quand on fait des expériences de laboratoire, on prend des petites boules et puis on construit une molécule de bon. Ça remplace, vous voyez, ça nous aide, c'est proche de l'imagination, on a un modèle. Au fond, on a un modèle qui nous satisfait. Le philosophe, il ne cherche pas des modèles. Alors, il faudrait voir, il y a un domaine dans lequel il cherche des modèles, enfin, dans lequel il est obligé presque de chercher des modèles, c'est dans le domaine communautaire, dans le domaine politique. Parce que là, c'est très compliqué. Bon, mais dans les autres modèles, vous voyez, je ne cherche pas un modèle pour l'âme parce que j'en aurai pas. Il vaut mieux même que j'accepte tout de suite que j'en aurai pas. Vous voyez, m'imaginer l'âme comme la petite lumière dans la boîte, c'est ce qu'on fait tous. Et bien, je crois que ça ne peut que nous empêcher de saisir ce que c'est que l'âme. Parce que précisément, le propre de la philosophie, ça sera de dépasser le visible. Mais pas de le dépasser tout d'un coup comme ça parce qu'on y croit. Ça sera de voir comment est-ce que, je dirais, le visible me montre du doigt l'invisible. Vous voyez ? Et de découvrir que mon intelligence va plus loin que mon imagination. Elle est capable de poser quelque chose, de saisir quelque chose que l'imagination ne saisit pas. Et c'est très pénible pour l'imagination. Donc, et c'est très pénible parce que c'est très appauvrissant. Mais que l'intelligence saisit quelque chose au-delà de l'imagination. Alors qu'au fond, vous voyez, c'est toujours la même démarche, elle approfondit. Alors que le scientifique, il ne dépasse pas son imagination. Vous voyez, l'imagination mathématique, elle est très purifiée, l'imagination mathématique. Et elle est très souple. Mais c'est l'imagination, d'ailleurs le signe, c'est que un mathématicien, à partir d'un certain temps, d'un certain âge, il ne peut plus avoir, je dirais, la qualification mathématique, mais la capacité de pénétration et d'intuition mathématique, qu'il y a un sommet, puis après ça on diminue. Puis même il y a pas mal de grands mathématiciens qui sont devenus fous à la fin. C'est pas nécessaire, mais c'est important de voir que non, parce que précisément c'est très douloureux, dans le domaine scientifique, d'avoir atteint un sommet, comme dans le domaine sportif, puis d'accepter après ça de diminuer. Oui. Quand on a tout mis dans sa recherche scientifique, comme des fois dans son art, ça peut être très dur, si on a tout mis là-dedans, après ça, d'accepter qu'on diminue. Alors que précisément, le philosophe, je dirais, il a, normalement, il a de moins en moins besoin de son imagination. Elle peut diminuer, sa mémoire aussi, sa pénétration de la réalité ne diminue pas. Alors ça ne veut pas dire que vous voyez, si on lui ampute la moitié du cerveau, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est important de comprendre que c'est simplement pour montrer que dans les mathématiques, même les plus purifiées, l'imagination est présente et qu'au fond, on ne peut pas parler de dépassement de l'imagination. Alors vous voyez, c'est ce qu'on verra, ce terme de structure, c'est qu'au fond, la science a une attitude, elle recherche premièrement des synthèses. Vous voyez, je dirais encore une fois, le philosophe, il cherche à atteindre quelque chose. Alors il cherche aussi à faire des synthèses. On va essayer de voir quand est-ce que le philosophe, d'une certaine manière, peut unifier ses connaissances. Le scientifique, il cherche tout de suite à unifier ses connaissances. Ce que je vous disais, dès qu'il a deux lois un peu différentes dans des domaines différents, immédiatement, il essaye de les unifier. Alors que le philosophe, au bout d'un certain temps, s'aperçoit qu'il faut qu'il accepte d'aller très loin dans un domaine avant de pouvoir unifier ses connaissances. Vous voyez, voir le lien entre ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'organisme vital, ce que c'est que l'âme humaine, et ce que c'est que l'amitié, ça demande d'aller jusqu'au bout de l'analyse de la vie, et ça demande d'aller jusqu'au bout de l'analyse de ce que c'est que l'amitié. Mais on ne peut pas, de manière rudimentaire, se mettre à faire de la soupe, vous voyez. Autrement dit, avoir une attitude, je dirais, scientifique en philosophie, ça aboutirait à faire des synthèses beaucoup trop rapides. Vous voyez, les idéologies, c'est ça. C'est qu'au fond, très rapidement, vous avez saisi un petit truc, puis ça explique tout. Alors, c'est plus ou moins, le cocktail est plus ou moins intelligent et séduisant. Je dirais, les idéologies qui se répandent le plus rapidement, c'est quand le cocktail est bien fait. Mais au fond, bon, c'est peut-être un peu dur à dire, mais très souvent, l'idéologie, c'est ça. Il y a une idée, vous voyez, qui est généralisée et qui explique tout. Alors que dans le propre de la connaissance philosophique, ça sera de découvrir que chaque aspect de la réalité lui demande une étude différente. Là encore, c'est appauvrissant. Vous voyez, une structure, je ne sais pas bien, mais au niveau chimique ou même au niveau psychologique, vous voyez, les tests psychologiques, c'est tous les mêmes, c'est les mêmes pour tout le monde. Alors après ça, on affine. Mais on vous fait passer, ça se dit bien, le terme de test psychologique, ça dit bien la chose. On fait passer des tests. Alors vous rentrez dans les cases et vous y rentrez pas. Le philosophe, pour chacun des aspects de la réalité différents, il va utiliser une approche différente. J'étudierai pas de la même manière la vie que j'étudierai l'amitié, j'étudierai pas de la même manière le travail que j'étudierai ce que c'est que la matière au niveau philosophique. Alors c'est clair, au niveau scientifique, il y a quand même des différences, mais vous voyez, c'est important de comprendre que la diversité entre la chimie a quand même des méthodes qui sont générales à la chimie, même si la chimie des tissus cellulaires n'est pas la même que la chimie des métaux. Ça n'empêche qu'il y a des méthodes générales qui sont quasiment les mêmes, alors qu'au niveau philosophique, il faudra être beaucoup plus souple. Très souvent, Aristote, dans ses ouvrages, dit qu'il ne faut pas chercher la même rigueur partout. Si vous cherchez à vouloir comprendre ce que c'est que l'amitié avec la même clarté que vous arrivez à comprendre ce que c'est que la vie, ben vous arriverez jamais, ou vous ferez des choses qui ne sont pas justes, parce que l'étude de l'amitié, c'est premièrement fait pour aimer plus, ou pour agir mieux, alors que la connaissance de la vie, elle est plus gratuite, elle est premièrement faite pour connaître ce que c'est que la vie. Donc si vous cherchez premièrement la connaissance dans le domaine, si vous n'avez pas un souci pratique, vous voyez, je dirais, ou un souci éthique, le souci de vous porter vers l'ami au niveau éthique, si vous avez simplement le souci de connaître pour connaître, ça vous aboutirez jamais. Alors je dirais, c'est cet aspect de synthèse, vous voyez, la science cherche très rapidement à synthétiser. Elle organise, vous voyez, alors là on retrouve des choses, bon, il y a c'est tout un ensemble de concepts que la science a découvert petit à petit. Et l'organisation, c'est la biologie a aidé beaucoup à comprendre ce que c'était que la science, elle cherche à organiser les éléments. Et puis, Surtout, donc, elle atteint, je crois qu'on peut dire qu'elle atteint une relation. C'est très important de comprendre qu'on va voir que le philosophe, il atteint l'existence de la réalité, il atteint ce qu'est la réalité. Alors que le scientifique atteint des relations entre les réalités. Vous voyez, c'est très important ça au niveau psychologique. Comprendre que le test psychologique, c'est, vous voyez, on a mis un franc 50 dans le... Et puis, on a une bouteille de Coca-Cola, vous voyez. On vous a fait passer un test, et puis ça a donné ça, alors vous avez tel numéro. On a mis un lien entre la grille dans laquelle on vous a fait rentrer et la manière dont vous avez réagi. On vous a testé. Mais on n'a pas atteint ce que vous étiez, on n'en sait rien du tout. Oui, je dirais presque, si la psychologie, elle voulait être adéquate à son objet, elle devrait s'interdire enfin, toute généralisation et tout test. Enfin, vous voyez, si vraiment elle voulait être une connaissance de ce qu'elle veut être, c'est une connaissance de la psyché humaine, c'est-à-dire de ce qu'est l'affectivité de l'homme, eh bien, je dirais, vous voyez, c'est rien ne remplacera l'expérience directe de cette affectivité. Vouloir saisir l'affectivité de quelqu'un à travers des tests, c'est un peu désastreux. Vous voyez, c'est comme si vous vous contentiez des lettres de quelqu'un pour le connaître. Alors, si vous ne pouvez pas faire autrement, c'est mieux que rien. Mais si surtout vous ne voulez pas le voir, parce que comme ça vous ne pourrez plus tester, vous voyez, vous aurez plus ça risque de vous perturber, parce que c'est sûr qu'une personne ne sait pas ce qu'elle écrit. Mais de la même manière, je dirais, un test, ce n'est pas l'affectivité de quelqu'un. Parce que vous avez, bon, souvent en plus, vous voyez, c'est un exemple très bon, parce qu'on voit que les tests, ils sont prévus. Donc il y a déjà une théorie. On vous teste sur telle et telle chose, parce que telle et telle chose, c'est censé être important. Or, précisément, on découvre souvent que dans le domaine de l'affectivité, c'est très très compliqué l'affectivité de quelqu'un, et qu'il y a des choses très importantes pour certains et qui ne le sont pas du tout pour d'autres, et qu'au fond, je dirais, rien ne... Dans ce domaine-là, vous voyez, qui est, au fond, d'essayer de comprendre ce qu'est quelqu'un, rien ne peut remplacer l'expérience directe. Vous pouvez avoir des gens qui ont exactement les mêmes résultats au test, il y en a un qui est au bord de la folie, et l'autre qui se porte très bien. Vous voyez, c'est... Pourquoi ? Parce que vous avez pris une mesure, et qu'au fond... Pour le philosophe, alors ça sera légitime encore une fois quand il s'agit d'étudier la matière ou d'étudier la vie. Quand il s'agit d'étudier l'homme, le philosophe deviendra plus farouche. Parce qu'il dira, au fond, surtout par rapport à la psychologie, au fond, vous appelez poisson ce que votre filet attrape, mais tout le reste, ça vous intéresse pas, quoi. Vous voyez, c'est un peu... Pour la psychologie, je crois que ça sera un des terrains de dispute très fort. Pas du tout pour nier qui est une psychologie, mais pour bien la situer, savoir, c'est très bien de faire des tests psychologiques. Le tout, c'est de, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit sans doute quelqu'un, effectivement, peut-être que les gens malades, ça aide à préciser quel est le type de maladie. Ça, mais ça ne m'aide pas à qualifier quelqu'un dans ce qu'il a de plus profond. Vous voyez, on voit bien ça, se servir de tests psychologiques pour déterminer... pas trop quoi, l'attitude de responsabilité de quelqu'un, par exemple. Est-ce que c'est légitime ? Vous avez des gens qui, psychologiquement, sont pas très forts, mais qui sont capables, vous voyez, qui ont des facultés de se... Vous voyez, qui ont une capacité, parce qu'ils sont lucides, de se servir de ces failles psychologiques et de les dépasser, qui apparaîtront pas à travers des tests. Vous avez des gens qui ont toujours zéro au test psychologique, ça n'empêche que c'est les plus intelligents. Et que c'est peut-être les gens qui seraient les plus capables de diriger, d'être responsables. C'est très important de saisir que les choses les plus profondes, comme la responsabilité, je dirais, la capacité de s'engager, la capacité de supporter, vous voyez, de porter les autres, la capacité de coopérer, c'est quelque chose qui, dans l'homme, est plus profond que, vous voyez, que son comportement, que les lois de son comportement. C'est très important de saisir que les choses les plus profondes, comme la responsabilité, je dirais, la capacité de s'engager, la capacité de supporter, de porter les autres, la capacité de coopérer, c'est quelque chose qui, dans l'homme, est plus profond que, vous voyez, que son comportement, que les lois de son comportement. Vous avez des gens qui ont un comportement tout à fait normal, mais qui sont incapables d'aider les autres, même dans le domaine du travail. Et vous avez des gens qui sont truffés de problèmes psychologiques et de tics, de comportements, et qui sont tout à fait capables de les dépasser. Alors bon, il ne faut pas généraliser, mais c'est important de comprendre la différence de niveau. Vous voyez, je dirais, on pourrait presque dire que la science atteint toujours le comportement de la réalité. Mais on dira, en termes précis, qu'elle atteint le conditionnement de la réalité. Elle dit comment la réalité fonctionne. Elle ne dit pas ce qu'est la réalité. Vous voyez, d'une autre manière, l'artiste saisira déjà ça. Elle ne saisit pas la qualité de la réalité. Alors vous voyez, cet aspect de structure, cet aspect d'organisation, ça pourra donner deux types de déviations au niveau philosophique. D'abord, ça donnera le structuralisme, qui sera au fond de dire, bon, ce qu'on a découvert au niveau scientifique, c'est vrai partout, l'homme, c'est une structure. Au fond, l'homme, c'est un foyer de relations. Cherchez pas à mettre la main sur quelque chose qui, vous voyez, cherchez pas, c'est juste l'inverse du jugement, vous voyez. Dans le jugement, j'atteins l'existence de la réalité. Et je dirais, il y a une évidence dans ce jugement, c'est le roc, le jugement. Vous voyez. Savoir que quelqu'un existe en face de moi, je ne peux rien faire. Si quand vous faites la cuisine, vous commencez à vous demander si votre casserole, votre cuisinière, vous voyez, vos ingrédients, tout ça se met à exister, c'est fini, vous ne faites plus rien du tout. Toute la journée, on vit, vous voyez, dans un état, alors c'est implicite, mais en permanence, notre intelligence, elle est en contact avec la réalité, et elle considère qu'elle existe, sinon elle ne ferait rien. Eh bien, cette attitude fondamentale par rapport à la réalité, le philosophe, quand il pose un jugement, il ne fait que l'expliciter. Vous voyez, il ne l'invente pas. Le jugement, c'est pas moi qui me mets à mesurer la réalité. Je découvre quelque chose qui est présent en moi. Alors que les structures, c'est sûr que les structures, j'en ai pas. Vous voyez, c'est pas implicite en moi. C'est pas quelque chose que vous voyez, je ne sais pas trop quoi, le lien entre, effectivement, le fonctionnement des molécules de gaz et puis, je ne sais pas trop quoi, des molécules des solides, c'est quelque chose, vous aurez beau scruter votre expérience, ça ne tombe pas sous l'évidence. Ça ne tombera jamais sous l'évidence, bien que ça puisse être certain. Alors, c'est ce que cherchera aussi, d'une certaine manière, l'idéalisme, c'est d'avoir des structures de pensée. Vous voyez, on parlera de structures de pensée. La philosophie, ce sera de rechercher des structures de pensée adéquates à la réalité. Mais parler dans des termes comme ça, ça montre bien qu'au fond, on construit quelque chose dans notre tête, et ensuite on vérifie si ça marche. Et au fond, alors ce qui est très important de savoir, c'est que la construction qu'on fera, elle sera toujours beaucoup moins intelligente que la réalité. Et c'est ça qu'on voit bien dans l'idéalisme, c'est ce que je dis dans les idéologies, c'est qu'au fond, si la construction elle est si séduisante, c'est parce qu'elle est simpliste. Alors le cocktail est bon, ce qui fait que ça séduit les trois quarts des gens, et ça peut se vulgariser facilement, mais c'est rarement très intelligent, une idéologie. C'est très subtil, c'est très artistique, ça touche exactement là où il faut, mais c'est, philosophiquement, c'est très peu intelligent. Vous voyez, que ça soit Freud de tout ramener à la sexualité, ou que ça soit le marxisme de tout ramener, je dirais, à un aspect économiste et matérialiste, ou ne serait-ce que social, c'est très simpliste pour le philosophe. Quand le philosophe commence à découvrir la diversité des expériences humaines, vous voyez, la richesse, quelle que ce soit la richesse de l'amour d'amitié, le travail, la vie, l'existence, tout le problème de la théologie qu'il découvre au terme de la philosophie, que ce soit le problème de la communauté, le problème de la matière, bon ben, si on ramène tout à une dimension, c'est une amputation qui est effrayamment... c'est très réductionniste. De la même manière que, je dirais, l'idéaliste qui veut tout ramener à la pensée, qui veut expliquer le réel par la pensée, qui au fond veut expliquer la connaissance uniquement par la pensée. Au fond, c'est l'attitude de Kant, ça sera, bon, Kant qui sera quand même, je dirais, le plus réaliste des idéalistes, qui sera de dire que la réalité ne vient que permettre à l'intelligence de manifester sa richesse. Tout ce que je connais, c'est présent dans mon intelligence, la réalité, elle n'est là que pour venir le provoquer d'une certaine manière. Alors d'un autre côté, le philosophe ne devra pas nier ses structures. Et c'est, par exemple, le philosophe sera attentif à ce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait au début, dans mon expérience, toute la personne est présente, tout ce que je suis est présent. Et donc, il y a des liens, il y a des interactions permanentes. C'est évident que, comment dirais-je, une expérience sensible toute simple, elle peut être très différente suivant que je suis, vous voyez, affectivement bien disposé ou pas disposé. Mais un paysage, ça pourra inspirer à Lamartine des profonds désespoirs parce que l'être aimé est absent. Et puis Saint François d'Assise, ça le fera exulter de joie. Je veux dire, ils pourront avoir la même expérience et, comment dirais-je, des attitudes intérieures complètement différentes. C'est donc, et même la sensation pourra leur paraître différente. Vous voyez, il pourrait y avoir l'affectivité pourrait atteindre un tel poids qu'elle vient presque corrompre la sensation. Toutes les choses pourront vous sembler complètement mornes, les couleurs complètement atones, vous voyez, monotones, simplement parce que vous êtes triste. Alors, ça fera partie de la richesse de l'expérience que le philosophe ne devra pas éviter, ne devra pas tout de suite simplifier les choses. Autrement dit, la tâche du philosophe n'est pas commode parce que il doit, surtout en dialoguant avec le scientifique, il doit être capable de découvrir que tout ce que lui dit le scientifique, ça l'aide à mieux découvrir la richesse de la réalité. Parce que toutes ces hypothèses du scientifique, même si elles ne sont pas l'attitude du philosophe, on l'a vu, elles correspondent à quelque chose dans la réalité. Donc au fond, le philosophe découvrira que les relations entre les choses dans la réalité sont multiples. Mais encore une fois, c'est pas les relations que le philosophe cherche. Ce qu'il cherche, c'est ce qu'est la réalité. Et ce qu'il cherche, vous voyez, c'est pas des relations, on dira, ce qu'il recherche, c'est des principes. En comprenant que le principe, vous voyez, c'est pas quelque chose que je pense, premièrement, c'est quelque chose que je découvre dans l'ordre même de la réalité. C'est-à-dire que, dans mon expérience me dévoile, me montre un certain ordre. Vous voyez, l'expérience de l'amitié, par exemple, me montre que, à la fois, l'ami, c'est quelque chose que je porte en moi et c'est quelque chose qui me dépasse. L'expérience me montre ça. Et l'expérience m'oblige à comprendre que, eh bien, il n'y a pas d'opposition entre mon bien et puis ma fin. Vous voyez, comprendre que ce qui m'achève, ce qui est mon bien à moi, et ce qui est un certain bien, vous voyez, quelque chose qui me dépasse, c'est pas contradictoire. Le philosophe, il comprendra cet ordre et il sera obligé de voir que cet ordre l'oblige à comprendre l'unité de ces deux choses, même s'il n'arrive pas à se les imaginer. Vous voyez, on dirait, nous, aimer, ou bien c'est égoïste, ou bien c'est altruiste. Ou bien on aime l'autre pour lui-même, ou bien on aime l'autre pour nous. Ben, si vous aimez l'autre que pour lui-même, vous ne l'aimerez jamais pour vous, c'est-à-dire que vous serez, même si vous êtes malheureux, vous continuerez à l'aimer. Voyez, et inversement, ou bien vous l'aimez que pour vous, parce qu'on a, vous voyez, l'égoïsme, on pressent tout de suite que l'égoïsme n'est pas juste. Mais prétendre aimer l'autre purement pour lui-même, ça n'a pas de sens non plus. Vous voyez, si vous aimez le chocolat que pour lui-même, même si vous détestez ça, c'est un peu... humainement, c'est un peu... Vous voyez, il y aura quelque chose d'analogue dans l'amitié. Quelqu'un qui décréterait qu'il aime quelqu'un par pur devoir, sans l'aimer, vous voyez, sans que ça soit ce qui l'épanouit, ça n'a pas de sens. L'épanouit au sens profond, hein, pas au sens psychologique. Donc vous voyez, cette dualité, il y aura un problème là, il y a deux aspects, et précisément, j'expérimente, enfin normalement, tous les jours, que l'ami, c'est à la fois celui qui m'épanouit, dans ce qui est le plus profond, même si au niveau il y a avoir des instants de crise, des moments de crise, ça c'est tout à fait sûr, mais que profondément c'est ça qui m'épanouit, donc c'est ce qui, il est dans le, d'une certaine manière, il est dans le prolongement de moi-même, et à la fois il me dépasse. Ben, le philosophe sera obligé de comprendre qu'il y a une certaine unité, et il y a quelque chose de, il y a un double aspect, et il y a une unité à cause de l'expérience qu'il a. Bon, ben, il sera obligé de dépasser son imagination, parce que son imagination, elle ne fait pas le lien. J'arrive pas à penser à la fois l'égoïsme et l'altruisme. Parce que je peux pas penser qu'à la fois quelque chose soit dans le prolongement de quelque chose et qu'il le dépasse. Et pour moi, notre imagination, elle n'est pas très intelligente.
C'est pas l'intelligence. Pour nous, ou bien c'est le terme d'un objet, alors c'est dans l'objet, ou bien c'est au-delà de l'objet. Ben non, celui que vous aimez, il est à la fois en vous et à la fois il est au-delà.
Et précisément, saisir ce que c'est qu'un principe, ça sera donc de saisir ce double aspect de la réalité et de comprendre que la réalité m'oblige à saisir quelque chose de plus profond qui existe, parce que c'est... Mais on parlera de la finalité, en l'occurrence. On dira que mon ami, il est ma fin. Eh bien, et je dirais que cette chose-là, mon intelligence comprend quelque chose de premier qui est dans la réalité. Donc c'est quelque chose qui est premier pour mon intelligence et quelque chose qui est premier dans la réalité. Vous voyez, c'est ça qui fait l'admiration du philosophe. C'est que ce qui est premier, ce qui épanouit le plus son intelligence, ce qui éclaire le plus son intelligence, c'est ce qu'il y a de plus profond dans la réalité. C'est ça qui fait qu'il interroge et qu'il cherche. C'est pour ça que je dirais que, vous voyez, ce principe qui est atteint par une induction, par cette pénétration dans la réalité, il peut être lent et il peut être laborieux, mais d'une certaine manière, il est définitif. Vous voyez, c'est comme le jugement. Le terme de l'induction, c'est un jugement. C'est-à-dire que j'atteins quelque chose et je suis sûr de l'avoir atteint. Vous voyez, une fois que j'ai découvert qu'effectivement l'homme, il a une âme, si vraiment je l'ai saisi, vous voyez, avec mon intelligence, je peux le croire et effectivement bon, pressentir qu'il a une âme. Parce que c'est sûr, d'abord on y croit quand on a la foi, et puis on le pressent, qu'effectivement il y a quelque chose de plus que le corps. Mais quand mon intelligence le saisit, à cause de l'ordre même de la réalité, je dirais, elle ne peut plus en douter. Alors qu'on a vu qu'au niveau scientifique, il suffit d'une petite anomalie pour qu'on soit obligé de remettre en cause toute la théorie. Mais c'est pour ça que ça fait comprendre pourquoi est-ce que Descartes, c'est pas pour rien que Descartes, vous voyez, apparaît au moment de l'éveil de la science. C'est que dans la science, la remise en cause, le doute, il fait partie de la démarche scientifique. Il est même, on l'a vu, presque une condition de sa progression, puisque dès que j'ai quelque chose qui ne rentre pas dans mon. Dès que j'ai quelque chose d'anormal que je n'arrive pas à expliquer, il va falloir que j'en rende raison. Alors que le philosophe, par exemple, c'est typique, je découvrirais que je commence à saisir ce que c'est que l'amitié, ben je découvrirais qu'il y a plein de cas où l'amitié, de fait, elle n'est pas du tout vécue comme ça. Ça n'empêche que, ou bien j'ai saisi ce qu'est l'amitié à partir de mon expérience et j'en suis certain, enfin, vous voyez, c'est quelque chose que j'atteins comme, vous voyez, au bout de mon intelligence comme au bout de mes doigts, ou bien c'est simplement je m'en suis fait une idée, puis effectivement la première expérience que j'aurai, ça va disparaître parce que c'est pas ça. Alors on distinguera simplement le principe, on dira que le principe c'est ce que j'atteins, mais ça le Père Philippe je crois vous en parlera, c'est ce que j'atteins de premier pour mon intelligence. Alors que la cause, c'est un principe, mais dans la réalité. Bon, ça, j'espère qu'il vous le refera, il vous en reparlera, parce que c'est une petite distinction qui est importante. Alors, vous voyez, c'est sûr que ça donnera une... La notion de causalité, donc, qui est liée à cette notion de saisie de principe, vous voyez, la notion de causalité philosophique, vous voyez bien qu'elle n'est pas la même qu'au niveau scientifique. Du coup, la causalité au niveau scientifique, on l'a vu, c'est une relation entre deux objets. Vous poussez une petite boule, ça tape une autre boule. Bon, ça, c'est une causalité. Il y en a une qui a poussé l'autre. Au niveau philosophique, c'est pas du tout ça. Au niveau philosophique, c'est de comprendre qu'il y a une source. La réalité me montre la présence de quelque chose qui est plus profond que ce qui m'apparaît. Autrement dit, je passe des effets à quelque chose de plus profond qui les explique et qui les éclaire. Alors que, vous voyez, savoir que c'est une boule qui a poussé la boule, ça ne vous éclaire pas beaucoup. Ça, vous voyez, ça ne vous explique pas mieux la première boule que la... Vous voyez. Quand vous avez découvert, je ne sais pas trop quoi, que La fumée, c'était le feu qui avait causé la fumée. Si là, en l'occurrence, ça vous explique mieux ce que c'est que la fumée. Mais si vous, si vous le généralisez, vous voyez, comprendre que tout fumée, toute combustion de je sais pas trop quoi, de châtaignier, ça donne du CO2, ça vous fait pas mieux comprendre ce que c'est que le châtaignier. Ça vous fait pas non plus mieux comprendre ce que c'est que la combustion, ce que c'est que le feu. Ça vous fait comprendre qu'il y a un lien, oui, qu'il y a un lien entre le feu et la fumée, ça d'accord. Voilà, alors je dirais un peu pour conclure que ça nous fait découvrir ce que c'est que l'intelligence, vous voyez, cette comparaison entre la philosophie et la science. Parce que c'est la même capacité, c'est l'intelligence, mais qui a une application qui est différente. Je dirais dans un cas, vous voyez, qui est le cas extrême des mathématiques, c'est l'intelligence qui est face à elle-même, se regardant elle-même, vous voyez. L'intelligence regardant son fonctionnement, d'une certaine manière, c'est ce qu'on découvre dans les mathématiques. Parce que le fonctionnement de l'intelligence, c'est de diviser. Et le principe fondamental des mathématiques, c'est la division. Vous voyez, c'est le mouvement, je dirais, c'est le mouvement et la division. Faudrait réfléchir, voir si le mouvement et la division, c'est pas la manière dont fonctionne l'intelligence. C'est pas ce qu'elle est. C'est la manière dont elle fonctionne. Comment est-ce qu'elle fonctionne, l'intelligence? Elle divise. Et elle mesure et elle se meut, elle se déplace, vous voyez, pour prendre une image. Et je crois qu'il faudrait voir si les mathématiques ne sont pas la plus belle construction de l'intelligence partant d'elle-même. Il y a un fondement réel, hein. C'est évident qu'au départ, les mathématiques ne sont pas nées tout d'un coup dans l'idée de quelqu'un. Les épreuves de Pythagore avec son champ et d'Archimède avec sa baignoire, ça nous montre bien qu'il y a quand même un fondement réel. Mais très rapidement, vous voyez, on le voit aujourd'hui avec les mathématiques dites non euclidiennes, l'intelligence a une capacité de réfléchir sur ses propres productions. Je dirais, pour se servir du réel et pour le dominer, c'est pour ça que ça sera très utile à la technique, et pour le connaître, la science veut connaître la réalité, mais à travers ses propres modes de pensée, à travers ses propres cases, vous voyez. Alors que le scientifique, il cherche à connaître l'homme. Et il accepte d'être mesuré par l'homme. Et puis surtout, il accepte de ne pas simplifier l'homme. Vous voyez, on pourrait dire que la philosophie, elle aboutit à une sagesse. Ça veut dire que elle permet à l'homme d'être plus homme. Alors que si la science, dans ce qu'elle a de plus noble, lui permet de mieux connaître, elle ne lui permet pas d'être plus homme. Et elle ne développe pas en lui ce qu'il y a de plus profond. C'est pour ça que la connaissance philosophique débouche sur la contemplation et la découverte de l'être premier. Alors que la science, elle part de sa capacité de connaître pour se tourner vers le réel à travers sa capacité de connaître. Donc, d'une certaine manière, la science ne pourra jamais dépasser la manière propre de connaître de l'homme. Plus exactement, le conditionnement de la connaissance de l'homme. La science, elle pourra aller jusqu'au bout. Elle pourra pas aller jusqu'au bout, mais elle pourra, développer le plus possible l'extension de la connaissance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on peut étudier scientifiquement n'importe quoi. On peut même l'étudier inutilement. Dans le domaine psychologique, ou dans le domaine du langage. On voit des études sur le langage. Il y a des gens qui écrivent des articles très très sérieux sur le langage de page et de page, sur la différence entre le terme de chat en sanskrit indien, qui est une langue qui a disparu depuis plus de, je sais pas trop quoi, en comparant ça à la manière dont il était prononcé à l'autre bout du monde. Alors, c'est sérieux. Est-ce que ça concerne encore l'homme? Vous voyez? Donc le problème que le philosophe posera utilement aux scientifiques, c'est est-ce que la science ne doit pas s'arrêter là où elle ne sert plus à l'homme? Parce que le scientifique, c'est un homme. Et la recherche scientifique, si elle est légitime, doit s'arrêter là où elle ne sert plus l'homme. Ou plus exactement, là où elle le dessert. Vous voyez ? Je dirais qu'effectivement, la science a quand même, la science, je dirais, n'est pas simplement au service de immédiatement de l'homme. Il y a une certaine, la connaissance mathématique, il y a une connaissance gratuite des mathématiques pour elle-même. Mais est-ce que radicalement, est-ce que la science ne doit pas s'arrêter là où elle ne sert plus l'homme ? Vous voyez, c'est ce qu'on voit très fortement, c'est que la science vient justifier, je dirais, vient engendrer, quand elle n'est pas accompagnée d'une recherche philosophique, elle ne s'arrête pas à une attitude sage. Vous voyez, on voit ça très bien aujourd'hui avec les problèmes de génétique. La recherche scientifique légitime une attitude qui outrepasse, je dirais, les droits simplement de l'homme, et qui dépasse qui ne respecte plus l'homme. Oui, ça fait comprendre comment est-ce qu'au fond, la manière dont l'homme se sert de son intelligence dans la science ne peut pas être ultime. Elle ne peut être que mesurée, je dirais, par la réalité et par ce qu'est l'homme. Voilà. Alors, ensuite, je dirais, c'est sûr qu'il y a un travail qui serait énorme, qui serait d'abord d'étudier le rapport entre les différentes branches de la science entre elles, d'un point de vue philosophique, et puis de voir concrètement sur des terrains donnés, vous voyez. Regardez ce que c'est que la vision, par exemple. Les sensations, c'est passionnant de voir ce que c'est que la vision ou le toucher pour un scientifique et pour un philosophe. C'est très intéressant de voir que, vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur l'astronomie. Le scientifique va arriver à une précision toujours plus grande, mais lui-même, s'il réfléchit un peu sur sa science, dira lui-même qu'il ne sait pas ce que c'est que la sensation. Vous voyez, il ne saura plus où diviser, par exemple. Ce que le philosophe appellera le toucher, le scientifique lui donnera 5 ou 6 noms différents, parce que ça sera localisé différemment, ou parce que ça sera, il ne l'expérimentera pas à travers le même instrument ou à travers la même méthode. Et le philosophe sera le seul à dire que, effectivement, il y a des phénomènes qui apparaissent très différemment, qui fondamentalement, c'est la même expérience du toucher. Vous voyez, par exemple, l'expérience d'équilibre. Être capable de se maintenir en équilibre. Le philosophe sera capable, à cause de son expérience et en étudiant son expérience, ça lui prendra du temps, de comprendre que c'est le toucher qui fondamentalement permet l'équilibre. Alors que le scientifique, il voit bien, c'est pas du tout les mêmes appareils, ça ne se situe pas aux mêmes endroits, les appareils qui perçoivent l'équilibre et ceux qui du toucher, donc c'est pas la même chose. Mais ça fait bien. Il faudrait, bon, c'est ça qui serait passionnant, c'est un travail de prendre chacune des branches philosophiques et de voir comment est-ce qu'au fond, le philosophe peut libérer, je dirais, le scientifique d'un souci auquel sa science ne répondra pas. Vous voyez, parce qu'il n'y a rien à faire, le scientifique qui regarde la sensation, il expérimente la sensation. Alors, il ne peut pas ne pas se demander ce que c'est. Comme le biologiste ne peut pas ne pas se demander ce que c'est que la vie. Comme le psychologue ne peut pas ne pas se demander ce que c'est que l'âme. Et au fond, je dirais, bien situer le problème en montrant que la science ne dira pas ce qu'est l'âme, je dirais, plus que de limiter le scientifique, je crois que ça peut au contraire le libérer. Voilà.